Bien, donc nous allons quitter l'Antiquité pour passer à l'époque médiévale et plus précisément à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c'est-à-dire à la période de la fin de l'époque mamelouque et le début de l'époque ottomane, puisque les Ottomans ont envahi l'Égypte et la Syrie en 1516-1517. Alors, par rapport au titre initial, je l'ai légèrement transformé. Au départ, j'avais donné « Messages et messagers divins » dans quelques chroniques historiques mamelouques. Or, j'ai modifié le texte, le titre, parce que ce sont les messages qui sont d'origine divine et non les messagers, puisque je vais prendre en considération non pas le prophète Mohammed, qui est le messager par excellence, en tant qu'envoyé de Dieu, Rasulallah, mais tous ceux à qui il s'est adressé, des hommes et une enfant, choisis pour transmettre à la communauté musulmane, l'Umma, des... J'ai oublié de mettre le... Je dois appuyer. Voilà. Ceux qui sont chargés de transmettre à la communauté musulmane, l'Umma, les messages émanant d'Allah et dont la teneur varie en fonction des circonstances. Ces personnages sont davantage des intermédiaires que des messagers, et d'ailleurs, dans les chroniques historiques, le terme « rasoul » n'est jamais employé. Donc, ce sont des individus, on va le voir, qui voient le prophète en rêve, et donc lors de ses rêves, qui peuvent être des rêves lors d'un sommeil profond, manam, ou des rêves éveillés, yakaza, leur prophète leur transmet un message. Autre point important, pour appréhender généralement les messages divins et les intermédiaires, il faut se tourner vers la littérature soufie, les ouvrages d'oniromancie, les récits autobiographiques. Les chroniqueurs font peu état dans leurs œuvres de ce type d'événements, ce qui explique la rareté des informations. Par ailleurs, ainsi qu'on va le voir, les visions oniriques, manam, que je vais présenter, n'ont nul besoin d'une interprétation. Les messages sont clairs et intelligibles, et pour reprendre une expression empruntée à Pierre Loris, ce sont des messages au premier degré. Donc, ils ne renferment aucune symbolique, nul besoin d'un interprète. Le prophète ordonne aux rêveurs d'agir, généralement pour le bien de l'Umma, donc de la communauté musulmane, qui se trouve à ce moment-là confronté à une situation difficile. Mais il y a des cas particuliers, ainsi qu'on va le voir. Je vous propose donc un plan... marche pas ? Un plan en trois parties, et je voudrais auparavant vous présenter les auteurs et les sources. J'ai utilisé trois auteurs... Et ils ne sont pas classés par ordre chronologique. Ibn Iyas, qui est un kérote, mort en 1524. Aucune profession, puisqu'on ignore toujours à aujourd'hui quel type de métier il a pu exercer. C'est un descendant de Mamelouk et il est auteur d'une chronique. Ibn Tawk, qui est un Damascin, qui est mort en 1509, qui lui est un juriste et qui est l'auteur d'un journal, donc qui est une forme littéraire, historique, tout à fait différente d'une chronique, et Ibn Touloun, qui est un Damascin, qui est mort en 1546, qui était un enseignant et un juriste, et qui lui aussi est l'auteur d'une chronique. Alors, en plan, donc, je vous propose, qui sont les intermédiaires, quelle est la teneur du message, et surtout, quelle est la réception accordée au message. Alors, qui sont les intermédiaires? Qui sont les intermédiaires. J'ai cinq cas, donc j'ai cinq personnes. Les personnages auxquels le prophète apparaît en rêve, manam, sont en grande majorité des cheikhs ou des soulaha, c'est-à-dire des personnages pieux et vertueux, des hommes dont la conduite irréprochable est connue et reconnue par tous. En effet, pour que le message qu'ils vont retransmettre soit pris au sérieux, les intermédiaires doivent présenter toutes les garanties religieuses requises. Dans le cas contraire, les croyants n'adhéreront pas à leurs paroles ou penseront qu'ils ont affaire à des affabulateurs, donc ils ne les écouteront pas. Donc, parmi les cinq personnages retenus figurent trois cheikhs. Le premier est un Damascin et anonyme. Et l'affaire, donc, il transmet un message, on va voir, au gouverneur de Damas, en 1521. Les deux seconds sont des personnages qui ont joui de leur vivant d'une grande notoriété. Le second est Ali al-Dakak, et le troisième, le grand auteur égyptien al-Suyuti. Mais le prophète s'est également adressé à un homme âgé nommé Hussein, un personnage qui a exercé la fonction de porte-guerre, Tachtamar, à l'époque mamelouk, auprès d'un commandant de Mil, un grand émir, Nowruz, et puis sous le règne du sultan mamelouk, Khansou el-Ghori. Et donc, je pense qu'a priori, cet individu est un ancien mamelouk et il vit au Caire. Les femmes peuvent être également distinguées, et la cinquième personne est une toute jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Elle habite Kalioub ou Kalma, des localités qui sont situées à une quinzaine de kilomètres au nord du Caire. Alors, parmi ces personnalités, ces individus, trois appellent quelques commentaires. Al-Suyuti, donc le grand auteur égyptien, est ce que je qualifierais un habitué des visions prophétiques. Il affirmait avoir vu le prophète à l'état de veille, Yakaza, plus de 70 fois. Même si certains de ses contemporains ne le prisaient guère, il semble avoir été moins controversé que le cheikh Ali al-Dakak. Ce Damascin, décédé en juin 1497, a été diversement apprécié par les auteurs et par ses concitoyens. Al-Razi, qui est mort en 1651, donc plus d'une centaine d'années après al-Dakak, le présente dans son dictionnaire biographique comme un personnage unanimement reconnu comme un wali, comme un saint, alors que le chroniqueur al-Busraoui, qui a été un de ses contemporains, al-Busraoui est mort en 1500, mentionne que la population damascaine était divisée à son sujet. Pour certains damascains, al-Dakak était un wali, un saint, pour d'autres, un menteur, un kazab. Donc on avait, je dirais, deux positions opposées. Et al-Busraoui se méfiait d'al-Dakak, qui touchait les revenus pris sur le waqf de la mosquée des Omeyyades pour des fonctions qu'il n'exerçait pas. Donc c'était une situation qu'il trouvait absolument anormale, et donc ce qui explique sans doute qu'il avait, je dirais, peu de sympathie pour le personnage. Quant à la jeune fille, à la toute jeune fille, Ibn Iyas introduit le passage la concernant par l'expression « waqil », on disait que, hein, ce qui, dès le départ, il fait état de sa perplexité. Alors, cette toute jeune fille est anonyme, son lieu de résidence fait tout de même problème. Est-ce qu'elle habite à Kalioub ou à Kalma? L'auteur ne tranche pas, et cette imprécision est d'autant plus surprenante que par la suite, Ibn Iyas relate qu'un grand nombre de kérotes lui rendait visite. Donc, il se rendait bien dans un lieu déterminé. Alors, qu'en est-il maintenant de la teneur des messages? Contrairement au rêve que j'avais évoqué ici même l'année passée, et qui était lié à un contexte épidémiologique, la peste faisait des ravages, aussi bien à Damas qu'au Caire, trois des messages ont une connotation politico-religieuse marquée, et deux d'entre eux concernent l'injustice, zulm, du pouvoir vis-à-vis de la population. Étrangement, ces deux rêves ont lieu en 1518 et 1521, peu de temps après la conquête ottomane, qui a eu lieu donc en 1516-1517. En effet, aucun rêve portant sur ce sujet n'est mentionné pour la fin de la période mamelouk, qui fut pourtant très difficile. Qui plus est, ainsi qu'on va le voir, ce sont les paroles prononcées par le prophète que les intermédiaires reproduisent mot pour mot, ou du moins, je dirais, que les auteurs nous donnent comme tels. Alors, tout d'abord, le message transmis par Hussein, donc le mamelouk du Caire, au gouverneur de l'Égypte, Rerbak, en juin 1518. Alors, c'est un message, je dirais, qui a deux temps. En juin 1518, Hussein prétend que le prophète lui a intimé « Va trouver le sultan Selim Shah, le sultan ottoman, et dis-lui de rentrer dans son pays et de cesser de verser le sang des musulmans par sa lutte contre Ismaël le Séfévite, donc le chat de Perse. Alors, ce n'est pas tant la teneur du message qui fait problème, même si on peut envisager que Dieu, brusquement, ait voulu faire cesser la rivalité entre les sunnites, le sultan ottoman, et les chiites, les séfévides. Le plus curieux est ce qui suit. En effet, puisque la séparation de l'Oumma date tout de même de 658. Donc, je dirais, c'est un peu tard, 1518. Le plus curieux est ce qui suit. Hussein prétend que le sultan ottoman lui a versé une somme importante, peut-être pour acheter son silence, mais qu'il l'a refusé, ce qui signifie soit qu'il a rencontré le souverain, soit que les deux hommes avaient été en contact. Donc ça, c'est, je dirais, c'est assez curieux. Quoi qu'il en soit, Hussein a été dévoûté, il a refusé l'argent et les affrontements n'ont pas cessé. Deuxième temps, il va trouver le gouverneur d'Égypte, le gouverneur de l'Égypte, donc Rerbak, et il lui raconte son rêve. Évidemment, le gouverneur est incrédule, ne le croit pas, pense que, je dirais, Hussein a fabule. Et que fait Hussein? Il change brusquement de sujet. Et il lui dit, fais cesser les injustices envers la population, les tiennes et celles de tes fonctionnaires, lesquels, par leurs actes arbitraires, sont en passe de ruiner l'Égypte. Et donc, le message est terminé. Voyons ensuite ce que va dire le cher anonyme au gouverneur ottoman de Damas, Ayas Pacha, en mai 1501. Donc on est, je dirais, dans la même situation. En mai 1521, un cher anonyme voit en songe le prophète qui lui dit « Va dire à Ayas Pacha que le prophète lui ordonne d'abolir cette contribution. » Le gouverneur avait imposé la population damascène. « S'il n'en fait rien, qu'il prenne garde à lui. » Le cheikh se réveille, va trouver le gouverneur et lui raconte son rêve. Donc on remarquera dans ces deux cas la similitude des propos avec des commandements, va trouver, va dire, fait cesser, ainsi que la menace qu'il prenne garde à lui, émanant du prophète, qui donc, bien évidemment, va faire mouche, on va le voir. Alors, le troisième rêve, lui, est tout à fait différent. C'est à la fois un rêve, un message, politique et prophétique, mais également qui relève du domaine personnel. En avril 1501, le cheikh al-Suyuti réapparaît au grand jour. Il s'était caché pendant six mois de règne du sultan Toumane Bey. Et donc, il réapparaît, puisque à l'époque mamelouk, quand un fonctionnaire, un personnage important, sent qu'il n'est plus en odeur de sainteté auprès du pouvoir, il se cache. Et d'ailleurs, le mot arabe, le verbe arabe, « irtafa », dit bien ce qu'il veut dire, c'est le soleil qui est caché par les nuages. En mai 1501, donc, Suyuti réapparaît. Et il s'était caché parce que le sultan Toumane Bey avait voulu le mettre à mort. Les deux hommes, donc Toumane Bey et Suyuti, avaient eu un différend à propos de la gestion de l'abbaye Barsiya, qui est un ranka, donc un établissement destiné aux soufis. Lorsqu'il se montre, lorsqu'il se réapparaît, Suyuti raconte que le prophète lui est apparu en songe pour lui annoncer l'imminence de la fin du règne de Toumane Bey. Et donc là, on n'a aucune parole. Suyuti, donc, qui avait déjà vu moult fois le prophète en rêve, est cru sur parole. Donc, si je réapparais, c'est parce que je sais que Toumane Bey va disparaître. Et les deux dernières affaires suscite à la fois l'étonnement et la méfiance des auteurs, et vous allez voir, elles sont assez curieuses. Alors, tout d'abord, à Damas, l'affaire Fawaz el-Harissi, janvier 1486. Une nuit de janvier 1486, Fawaz el-Harissi, qui était le responsable du quartier al-Rassi, donc un quartier de Damas, se rend chez Soudoun, un homme d'Al-Kubayba, qui devait tenir une taverne, pour boire. Évidemment, pas de l'eau, du vin. Dénoncé, il est arrêté et pendu. Quelques jours après sa mort, le cheikh Ali al-Dakak, donc ce personnage controversé, Wali pour les uns, Kaza pour les autres, demande aux autorités que Fawaz ait droit aux derniers hommages. Il appuie sa requête en faisant valoir que lui, Ali al-Dakak, a vu le prophète en rêve et que ce dernier lui en a intimé l'ordre. Bien. Et on va voir la suite ensemble. Et puis, la petite fille de Kalyoub ou de Kalma, décembre 1509. Dans ce cas précis, on ne sait rien des messages transmis par le prophète à cette jeune adolescente qui vit à Kalyoub ou à Kalma. Pourtant, il lui est apparu à plusieurs reprises. On peut penser que c'est son innocence, c'est-à-dire sa jeunesse, qui lui a valu cette distinction, puisque selon un hadith, les enfants ne mentent pas. Alors, elle, qu'avait-elle de particulier? Elle accomplissait des miracles, elle guérissait des personnes, perclues de rhumatisme, donc handicapées physiquement, et rendait la vue aux aveugles. Alors, la réception, troisième partie, du message. Les deux premières affaires ont un dénouement opposé, et je dirais radicalement opposé. Hussein avait donc été trouvé le gouverneur du Caire, Rerbak, lui avait raconté que le sultan ottoman ne devait plus combattre Ismail Shah et surtout qu'il devait faire cesser les injustices. Rerbak l'écoute, Hussein, voyant qu'il n'est pas cru, devient de plus en plus fébrile, et, je dirais, il devient incohérent. Une incohérence qui n'échappe pas au gouverneur, hein, et qui n'échappe pas non plus à Hussein, qui s'aperçoit que le gouverneur ne croit pas. Et exaspéré, il va commettre une erreur qui va lui être fatale. Il insulte le gouverneur, et l'assistance, oubliant que l'on ne peut se conduire ainsi avec les autorités. À l'issue de cette entrevue, et malgré son grand âge, Hussein est mis à mort. Il est décapité en public sur la place Roumeïla. En aurait-il été de même s'il avait appartenu au milieu religieux, et surtout s'il avait gardé son sang-froid? Même si on peut en douter, il est difficile de se prononcer. Et pourquoi a-t-on cette anecdote? Parce que Ibn Iyas est choqué par cette exécution qu'il qualifie d'abominable hadith Ashania. Un tout autre sort attend le cher Damasquin anonyme. Lorsqu'il a été trouvé à Ayas Pacha et lui a dit « Supprime la contribution, elle est inique » et le prophète a dit « Prends garde à lui, à toi », le Ayas Pacha pose la main sur la tête de son interlocuteur et déclare « Je l'ai déjà supprimé ». L'avait-il effectivement déjà supprimé ou était-il sur le point de le faire? Et ce que raconte Ibn Tulun par la suite est de la plus haute importance. Le même jour, Ayas Pacha visite divers lieux saints à Damas et distribue des aumônes. Le prophète pouvait très bien s'adresser aux deux hommes. Ayas Pacha avait peut-être eu conscience de l'iniquité de sa demande. Toutefois, la menace du prophète qu'il prenne garde à lui avait été efficace. La suppression d'une contribution financière, jugée inique, et la religiosité affichée du gouverneur ont attiré l'attention d'Ibn Tulun. Ce dernier a estimé que ces faits devaient figurer en bonne place dans sa chronique. Quant à Al-Suyuti, celui donc qui s'était caché par peur du sultan, personne, pas même le sceptique Ibn Iyas, ne remet en cause le fait que le prophète l'ait averti de la fin prochaine du règne de Toumand Bey, pourtant prévisible si on considère la conduite lamentable de ce dernier. En effet, les Mamelouks n'aiment pas beaucoup les sultans sanguinaires. L'auteur adhère aux propos d'Al-Sayuti et estime que le cheikh a joui de la protection divine. Alors, dans les deux affaires suivantes, là, je dirais, on entre dans le bizarre. Dans l'affaire de Fawaz el-Harissi, donc cet individu pendu parce qu'il buvait, Ali al-Dakak, qui avait été voir les autorités et qui avait demandé l'autorisation de dépendre le cadavre, a obtenu gain de cause. Donc, il dépend le cadavre, fait pratiquer la toilette mortuaire, récite la prière de l'absence à la Tel Khaïb, l'enterre, et cela lui coûte quand même la bagatelle de 50 dinars. Lorsque tout le monde à Damas sait que Ali al-Dakak a défendu Fawaz, l'a enterré parce que le prophète lui a demandé, la foule se mobilise. Plus de 500 personnes assistent aux funérailles d'un individu qui avait été pendu pour non-respect de la loi religieuse. Cela, évidemment, surprend et mécontente Ibn Tawk, qui insiste sur le fait que Fawaz est un homme aux mœurs déplorables. Il avait commis de nombreuses mauvaises actions. Mais l'auteur n'est pas au bout de ses surprises. Peu de temps après, en mars, de nombreuses femmes visitent la tombe de Fawaz, l'érigeant de facto au rang de wali, de saint, ce qui scandalise bien évidemment encore plus Ibn Tawk, et les femmes visitent la tombe pour, je dirais, obtenir eh bien, la guérison d'un proche, avoir un garçon, etc. Si El-Harissi n'avait pas accédé au statut de wali, au statut de saint, jamais Ibn Tawk ne lui aurait accordé le moindre intérêt. Il n'aurait été qu'un mécréant parmi tant d'autres. Alors, ensuite, le cas de la jeune fille de Qalyoub, ou de Kalma. Ibn Iyas ne revient pas sur cette affaire par la suite. Certes, quand on sut au Caire qu'elle accomplissait des miracles prodigieux, Karamararika, n'avait-elle pas guéri des individus perclus de rhumatisme et rendu la vie à des aveugles ? Un nombre impressionnant d'individus se rendirent auprès d'elle. Souffrait-il d'une quelconque pathologie ? Voulait-il la voir, parler avec ceux qui avaient connu une guérison miraculeuse ou simplement lui demander d'intercéder auprès du prophète ? On l'ignore. Ibn Iyas, qui signale je dirais, cette affaire, estime que l'on colportait au sujet de cette fille des histoires fausses. Quoi qu'il en soit, lui n'a pas été vérifié par lui-même. Toutefois, on peut comprendre que si, effectivement, elle avait possédé des pouvoirs thaumaturgiques, les gens se soient déplacés. Ils avaient probablement en mémoire les sourates 3, versets 43 à 49, et 5, versets 110, dans lesquels il est dit que Jésus, et c'est Allah qui parle à Jésus, hein, en tant que prophète, avait le droit de guérir l'aveugle né et le lépreux. Hein. Donc, je dirais, ce type de guérison miraculeuse ne pouvait pas étonner les musulmans. Les pouvoirs de la jeune adolescente, vrai ou supposé, avait déplacé les foules et créé l'événement, ce qui a attiré, bien évidemment, l'attention d'Ibn Iyas. Alors, en conclusion, le traitement du message divin, puisqu'on est dans le cadre des chroniques, est fonction de la perception qu'en ont les auteurs. Quant à l'intermédiaire, il est jugé à l'aune de sa respectabilité qui rime avec crédibilité. Toutefois, les chroniqueurs sont prudents, pour ne pas dire méfiants, sans doute parce qu'ils abordent un domaine qui leur échappe en grande partie, un domaine dont ils ne possèdent pas les clés. Quand ils décident d'évoquer les messages divins et les intermédiaires, ils prennent peu de risques, se cantonnant à des histoires qui affectent l'Oumma tout entière, donc la communauté musulmane tout entière. C'est le cas des deux premières affaires, 1. Deux, hein, où il est question d'injustice et, je dirais, de demandes financières indues. Il se montre plus réticent quand il s'agit de miracles, c'est le cas de la petite fille de Qalyoub, ou d'intervention pour des personnages en délicatesse avec la religion, c'est le cas de Fawaz. Quant au Cheikh al-Suyuti, celui qui a réapparu après la mort de Toumam Bey, Ibn Iyas ayant été son élève, il est le seul à l'évoquer dans l'affaire de sa réapparition volontaire. Quoi qu'il en soit, c'est probablement l'extraordinaire, voire l'étrangeté de ces affaires, ainsi que leur fin heureuse ou tragique, qui a conduit les auteurs à les évoquer. Sinon, je dirais, ils n'en auraient pas parlé, parce que la chronique historique n'est pas le lieu où on débat des interventions divines, et, je dirais, des messagers, que ce soit le prophète, les anges ou encore des intermédiaires. Je vous remercie de votre attention.